Bonsoir à tous, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Vous êtes ce soir sur le Libre Journal de l'Occident, que moi-même, François-Xavier Jiquel, j'ai la chance et l'honneur de diriger. Et je serai ce soir accompagné d'Alexandre de Galzin. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir François-Xavier.
Donc Alexandre de Galzin qui est journaliste à Radio Courtoisie et particulièrement à Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie que je vous invite tous à suivre. Et nous serons également avec Alexandre Cormet-Denis, qu'on ne présente plus dans cette émission, qui est lui-même journaliste, fondateur de Nomos TV et qui a également son émission sur Frontières les vendredis, Cormier-Denis. Alors nous allons donc ce soir parler géopolitique avec plusieurs sujets. On verra ce que le temps que nous dépassons très souvent nous autorise à traiter. Mais nous allons commencer par un sujet hautement brûlant, ils le sont tous, à savoir les élections qui se sont passé ce week-end en Hongrie. En effet, le parti Tisza de Péter Maggyar a remporté ces élections, ce qui a représenté quand même une grosse vague politique pour le pays, puisque ça a mis fin à 16 ans de pouvoir de Viktor Orban, avec un très fort taux de participation et une très large victoire de Péter Maggyar. Alors, avant d'attaquer le sujet en lui-même, on rappelle que Péter Maggyar est lui-même un ancien du Fidesz, hein, qu'il quitte en 2024, une rupture donc, qui devient publique en février 2024 sur de sombres histoires de pédophilie en Hongrie, dont certains membres d'État auraient signé des lettres de gage. Alexandre de Galzin, vous allez nous expliquer tout ça.
Oui, mais en un mot, il faut dire que Péter Maggyar a été marié durant 17 ans à Judith Varga, qui était l'ancienne ministre de la Justice de Viktor Orban, et que Judith Varga, en fait, elle-même était compromise avec Katalin Novák, donc l'ancienne présidente de Hongrie, qui elle-même avait, pour faire simple, gracié l'archevêque de Budapest, qui lui était impliqué dans une affaire de pédophilie. Et effectivement, la rupture entre Péter Maggyar et sa femme Judith Varga est arrivée, je crois, en novembre ou décembre 2023. Et en guise de vengeance, quelque part, il a publié des extraits vidéo, des extraits audio, durant lesquels il avait enregistré sa femme en secret à propos de cette affaire justement avec l'archevêque de Budapest, ce qui a créé évidemment un énorme scandale dans le pays, causant la démission à la fois de Katalin Novák et de Judith Varga. Donc effectivement, tout ça a commencé sur une histoire de revanche.
Alors, en effet, donc il y a cette affaire-là qui a fait beaucoup de bruit et qui a sonné le glas pour la présence de Péter Maggyar au sein du Fidesz. Mais il y a aussi un autre élément qui est quand même important, c'est que tout de suite, il a également dénoncé des choses plus politiques, à savoir une centralisation excessive du pouvoir entre les mains de Viktor Orban et de certains de ses proches. Et c'est ce qui a permis de nourrir un petit peu le débat en Hongrie sur le poids que pesait cette administration du Fidesz depuis des années. C'est ce que vous avez pu observer quand vous êtes rendu sur place ?
Absolument. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 16 ans, quand il est arrivé au pouvoir, quand il est revenu au pouvoir, parce qu'il avait déjà été au pouvoir quelques années auparavant, mais Viktor Orban, une des premières choses qu'il a décidé, c'est de nationaliser le plus possible les entreprises publiques. Ce qui signifiait faire en sorte que de nombreuses entreprises publiques ne soient plus entre les mains, d'État en tout cas, ne soient plus entre les mains d'étrangers, mais soient redonnées à des Hongrois et donc redeviennent des formes d'entreprises publiques. La conséquence de ça, c'est que les personnes qui ont été choisies pour investir dans ces entreprises publiques, pour en devenir les chefs, étaient souvent des proches de Viktor Orban, ce qui fait qu'en réalité, il y a eu vraiment un système Orban qui s'est créé pendant 16 ans, d'où de nombreuses accusations de corruption qui n'ont pas été jugées. Donc c'est toujours, faut être prudent à ce sujet-là, mais enfin, ce qui est certain, c'est qu'évidemment, la famille d'Orban, les proches d'Orban, eux, possèdent actuellement encore de très nombreuses entreprises stratégiques dans le pays, de nombreuses secteurs comme par exemple celui des routes, celui de l'énergie ou des télécommunications. Et finalement, Viktor Orban a mis au service du Fidesz quelque part, des télévisions, des médias, des instituts, etc. Ce qu'il faut bien expliquer dans ce cas-là, c'est que quelque chose qui est assez amusant, c'est qu'on a vu des personnalités étrangères comme par exemple Gabriel Attal ou même Pedro Sanchez, Ursula von der Leyen soutenir Péter Maggyar comme étant une victoire face au populisme. Il faut bien comprendre que Péter Maggyar lui-même n'est rien d'autre qu'un populiste. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a littéralement fondé une sorte de parti attrape-tout, le TISA, dans le but de coaliser toutes les oppositions, grâce à son charisme, toutes les oppositions face à Viktor Orban. Et ça signifiait que finalement, c'était Peter Maguire contre le système. C'est ça qui était assez fascinant durant cette élection, c'est que finalement Viktor Orban, qui est lui-même un populiste, était le système, et que Peter Maguire, lui, était le populiste contre ce même système.
Oui, parce qu'on a commencé, alors ça c'est important de le dire, on a commencé cette émission un peu dans le dur, en dressant un portrait un peu controversé de Viktor Orban. On n'oublie pas qu'il a été un rempart face à la tyrannie de la Commission européenne, et qu'il a préservé son pays de flots d'immondices que l'Union européenne voulait déverser sur nos pays. Maintenant, en effet, avec Peter Maguire, comme vous le dites, on a une coalition, on a à la fois un personnage qui est parti du Fidesz il y a 2 ans, à la fois un personnage qui, lors de son discours inaugural, a laissé augurer le fait qu'il allait maintenir sur une ligne conservatrice et préserver l'autonomie de sa nation face à la tyrannie de Bruxelles. Mais qu'en est-il vraiment? Est-il vraiment, parce qu'il a quand même été élu sur un soutien de Bruxelles, sur le chantage aux subventions, avec un soutien du reste de la société hongroise, est-ce qu'il a la possibilité réellement de maintenir cette ligne nationale conservatrice longtemps, ou il va être obligé de faire des concessions à un moment donné?
Et ce qui est fascinant, c'est que vous l'avez très bien dit, en fait, Viktor Orban, en quelque part, j'ai presque envie de dire que l'élection de Peter Maguire ne signifie pas qu'il faut rejeter Orban pour autant. C'est-à-dire que d'une certaine façon, on l'a vu pendant le discours inaugural de Peter Maguire, il a essentiellement confirmé des acquis qui avaient été réalisés par Viktor Orban. C'est-à-dire que c'est Viktor Orban, quelque part, qui permet, qui insuffle la ligne que prend Peter Maguire ces derniers jours, ces derniers mois. Et effectivement, il faut rappeler, comme vous l'avez dit, hein, mais que Viktor Orban, c'est quand même le symbole de la résistance face à la Commission européenne, de la résistance face à l'immigration, de la résistance face au progressisme. Et quelque part, Peter Maguire reprend l'héritage idéologique presque ou politique de Viktor Orban, tout en essayant d'insuffler un nouveau système à l'intérieur. Après, évidemment, ça c'est la question que vous posez, j'y arrive directement. Il est très difficile de savoir si Peter Maguire, qui n'est pas un idéologue pour un sou, parviendra ou voudra même réellement insuffler cette politique qu'il a instillé durant son discours inaugural. C'est-à-dire que faut pas oublier, comme je le disais, mais c'est un parti de attrape-tout, un parti de coalition. Faut pas oublier que notamment, en fait, il y a 4 ans, le bilan de 12 ans de Viktor Orban était suffisamment bon pour que Viktor Orban se fasse réélire aux 2/3 au Parlement, et que en fait c'est simplement son dernier mandat qui a été effectivement une forme d'échec sur le plan économique notamment, ce qui est même sur le plan un petit peu géopolitique aussi, ce qui l'a desservi. Mais dans le fond, tout l'électorat qui votait autrefois socialiste contre Viktor Orban, tout l'électorat socialiste s'est reporté sur Peter Maguire. Ce qui signifie que Peter Maguire, lui, alors, n'est pas socialiste pour un sou, mais les personnes qu'il a placées, notamment dans les circonscriptions ou alors sur la liste nationale, ne sont pas non plus des socialistes, ne sont pas pour autant des anciens du Fidesz, tous, ne sont pas tous des idéologues, ne sont pas tous anti-immigration. C'est pour ça que l'une des inconnues qui existe pour les 4 années de mandat à venir de Peter Maguire, c'est est-ce que finalement sa coalition tiendra? Ça, c'est la première question qui se pose. Et ensuite, est-ce qu'il parviendra à insuffler vraiment une politique? Parce que, quelque part, être anti-Orban, c'est un programme pour se faire élire, mais c'est pas un programme une fois qu'on est élu. C'est pas, en fait, quelque part, à part démanteler certaines institutions et entreprises mises en place par Viktor Orban, Peter Maguire n'a pas de projet. Et la question, c'est justement, quel sera ce projet? Est-ce qu'il va justement réussir à maintenir une forme de continuité sur l'opposition à l'immigration? Est-ce qu'il va réussir à maintenir une forme de continuité sur, la question du conservatisme, sur la question européenne? C'est un petit peu différent, parce que j'aurais tendance à penser que la Commission européenne pourrait, ne serait-ce que parce que ce n'est plus Orban, eh bien lever les sanctions contre la Hongrie sans qu'elle change forcément de politique. C'est quelque chose qui sera évidemment à voir. Peter Maguire a aussi un avantage au niveau européen, c'est qu'il est dans le parti de Ursula von der Leyen, il est membre du PPE, c'est-à-dire qu'en 2024, il a été élu député européen du PPE en réalisant 30% des voix. Le Fidesz faisait 45% à cette, à cette élection à peu près. Et effectivement, la question qui se pose désormais, c'est qu'est-ce qui va se passer? Et je profite aussi de tout ça pour dire que si jamais vous voulez comprendre un petit peu tous les ressorts de la défaite de Viktor Orban et l'ambiance un petit peu qu'il y avait à Budapest, il y a un reportage qui est sorti hier soir à 18h30 sur Radio Courtoisie, sur la chaîne de Ligne Droite plus précisément, que vous pouvez retrouver sur YouTube.
Alors c'est exactement la question que j'allais vous poser pour avoir en primeur le fruit de votre travail à Budapest, puisque grâce aux auditeurs de Radio Courtoisie qui sont toujours plus nombreux à nous rejoindre et à nous soutenir, et j'invite tous nos auditeurs, s'ils ne le savaient pas déjà, à soutenir financièrement Radio Courtoisie, puisque Radio Courtoisie est une radio qui ne vit que grâce à vos dons, et qui réussit à faire ce genre de reportage de qualité, de terrain, pour mieux comprendre les enjeux et aller dans la profondeur. Et donc c'est ce qui donne justement cette profondeur aux émissions qu'on peut produire. Et donc justement, de terrain. Parce que depuis la France, l'ambiance était différente. Depuis la France, on l'a déjà abordé avant, c'est pas la peine d'y revenir. Chez les conservateurs, chez la droite, chez tout ce qu'on veut mettre derrière cette étiquette, on était terrorisés de la fin de l'ère Orban et de la toute puissance de la Commission européenne. À quoi ça ressemble une élection, une fin de règne comme ça dans la rue hongroise concrètement?
Alors, vous dites la rue hongroise, moi j'étais à Budapest.
Oui.
Ce qui est très différent. C'est-à-dire que faut pas oublier que le pays en général est un petit peu... comme la France sur ce point, c'est-à-dire que la capitale Budapest, qui fait 2 millions d'habitants, eh bien, elle est une capitale qui attend traditionnellement et évidemment plus à gauche, qui est plus jeune, qui est plus anti-Orban. Et puis d'un autre côté, les régions, elles, où il y a des personnes plus âgées, où il y a des personnes plus pauvres aussi, vote beaucoup plus pour Viktor Orban. Vous pouvez dire que Viktor Orban a quand même eu 2 millions de voix et que, si je ne m'abuse, Peter Maguire en a eu 3,2 millions. Donc, c'est pas... Enfin, quelque part, il y a quand même eu un certain nombre d'électeurs qui ont soutenu Viktor Orban, faut pas l'oublier. D'ailleurs, j'en profite pour préciser que c'est quelque chose qu'on m'a expliqué là-bas, c'est que le niveau de vie à Budapest était 3 fois plus élevé que en province. C'est-à-dire que le salaire moyen à Budapest est autour de 1500-1600 euros, en province c'est plus autour de 500-600 euros, justement. Donc alors c'est en florin là-bas, mais quelque part c'est déjà un premier point. Ensuite, ce qu'il faut être capable de considérer et qui est pas négligeable, c'est que dans les rues de Budapest, qui représente donc 2 millions de personnes, avec un taux de participation qui avoisinait les 80%, ce qui est absolument historique pour la Hongrie, ça n'est jamais arrivé depuis la chute du communisme, eh bien, pour le coup, j'avais l'impression d'être à Berlin en 1989 à la chute du mur. Des dizaines de milliers de jeunes en train de faire la fête, en train de boire une bouteille de vodka ou une canette de bière à la main, ivres, joyeux, en train de danser, de s'embrasser, de s'enlacer, de faire la fête, des voitures dans toute la ville qui étaient en train de klaxonner. Enfin, c'était le mélange entre une ambiance Coupe du Monde et une ambiance chute du mur, quelque part. Et honnêtement, on sentait chez toute cette jeunesse, parce que je pense que la moyenne d'âge dans les rues était autour de 25 ans, c'était assez impressionnant. On sentait chez cette jeunesse l'idée que, ça y est, c'était fini, ils étaient libérés. On sentait Budapest outragé, Budapest libéré, quelque part. Et quelque chose qui était assez intéressant à noter, et qu'on m'a, en fait, qui est assez logique dans le fond, c'est que cette jeunesse, comme je dis, a autour de 25 ans, quelque part, c'est une jeunesse qui n'a pas de souvenir de la Hongrie avant Viktor Orban. Et donc, c'est une jeunesse qui ne sait pas comment était la Hongrie avant Viktor Orban et qui ne réalise pas vraiment le bilan de Viktor Orban. Ce sont des gens qui votent pour la première ou pour la deuxième fois aux élections législatives et donc quelque part, n'ont pas forcément l'expérience qui permet de se dire « Bah oui, en fait, Viktor Orban, durant 12 ans, a fait des choses qui étaient extrêmement positives pour la Hongrie. » Oubliez qu'il a notamment redressé le taux de natalité qui est encore très bas là-bas, mais c'est 1,4 enfants par femme, il me semble, mais qui était à 1,1 auparavant. Donc, c'est-à-dire que c'est évidemment assez important sur l'immigration. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette jeunesse, en l'occurrence, c'est pas une jeunesse gauchiste. C'est une jeunesse qui est aussi anti-immigration. C'est une jeunesse qui est globalement conservatrice. C'est une jeunesse qui, finalement, est pas du tout ce que vous pouvez voir à la fac de la Sorbonne ou à Tolbiac à Paris ou à Nanterre. C'est une jeunesse, pour le coup, en fait, pour être tout à fait franc, ce serait une jeunesse qui voterait Bardella en France. Et donc, c'est assez étonnant de les voir, justement, malgré leurs convictions, eh bien, faire la fête. Mais c'est, enfin, je vous dis, l'ambiance était absolument impressionnante, délirante de joie, de liesse, d'allégresse, dans les rues de Budapest. Encore une fois, dans le reste du pays, sans doute, était-ce assez différent. Un dernier point que j'aimerais soulever, c'est le fait que, encore une fois, il faut rappeler que la gauche hongroise n'existe plus. Que la gauche hongroise a réalisé 1% des suffrages. Et que, d'ailleurs, au contraire, le parti nationaliste, donc à la droite de Viktor Orban, donc il faut imaginer la droite de Viktor Orban, c'est quand même quelque chose, Miazanx, lui, est entré au Parlement durant cette élection. Et d'ailleurs, ça pourrait être lui le bénéficiaire de droite, quelque part, à la droite d'opposition de ces élections. Il n'est pas impossible que des membres du Fidesz rejoignent Miazanx dans les prochains mois, dans les prochaines années, étant donné que, pour le coup, là où Viktor Orban a reconnu sa défaite très tôt, Miazanx a dit « Eh bien, Peter Maguire, nous adressons toutes nos félicitations à la Commission européenne qui a gagné cette élection. » Miazanx, c'est quand même un parti qui est particulièrement... disons radical, encore plus que le Fidesz.
Donc pour conclure sur ce qu'on a, on vient de recevoir une question d'un auditeur, puisque je le rappelle, vous pouvez poser vos questions à courtoisie@rc.fr. Et nous avons reçu une question pertinente, comme elles le sont toutes, de notre auditeur Denis Morel, qui en fait, en effet, parce qu'on a détaillé, on a parlé de l'héritage ou non. Que conserverait Peter Maguire de Viktor Orban. Mais on n'est pas rentré dans le détail, c'est vrai. Alors très rapidement, sur l'immigration et l'islamisation, sur les lobbies LGBT, sur l'arrivée dans l'immigration en règle générale de réfugiés ukrainiens et la politique de durcissement potentiel vis-à-vis de la Hongrie, vis-à-vis de la Russie qu'aurait la Hongrie aujourd'hui. Où se situe Peter Maguire? Est-ce qu'il montre des signes d'évolution? Est-ce qu'on est encore dans un doute vis-à-vis de sa coalition? Est-ce que concrètement, sur ces questions-là, il s'est déjà prononcé et donné des orientations sur ce qu'il voudrait faire de son pays?
Quelque chose qui est assez amusant déjà qu'il faut rappeler, c'est que beaucoup de soutiens de Peter Maguire et donc de son parti, le TISA, reprochaient à Viktor Orban d'avoir fait rentrer trop de migrants. D'avoir fait rentrer des migrants, notamment chinois, des migrants donc qui venaient pas du tiers-monde, mais qui venaient quand même de pays extra-européens. Donc, à la question, est-ce que la Hongrie va être noyée par une immigration massive? La réponse, alors évidemment, dans le discours de Peter Maguire, c'est radicalement non. Les Hongrois ne veulent pas d'immigration. Peter Maguire reste un populiste qui donc base sa politique sur ce que veut le peuple. Il ne veut Peter Maguire, lui, n'est pas du tout un immigrationniste, un progressiste. Et j'en arrive à la deuxième question. La grande parade LGBT à Budapest, qui avait été interdite l'année dernière et qui avait tout de même eu lieu, c'est peut-être le genre de concession que Peter Maguire pourrait réaliser auprès de la Commission européenne, mais je ne pense pas non plus que ça irait jusqu'à la légalisation du mariage homosexuel en Hongrie. Je ne pense pas non plus que ça irait jusqu'à la légalisation enfin, la reconnaissance de la transidentité ou autre idée dans ce genre. En l'occurrence, je rappelle que Peter Maguire, lui, est vraiment un populiste, c'est-à-dire qu'il est même quelque part plus populiste que Viktor Orban, dans le sens où, du moment que ça s'opposait à Viktor Orban, lui était plutôt pour, et donc lui écoutera globalement le peuple. C'est-à-dire que faut sortir un petit peu de l'opposition entre conservateurs et progressistes qu'on a souvent en Europe, entre la droite, enfin la gauche indigéniste antiraciste et la droite nationale anti-immigration et plutôt conservatrice. En l'occurrence, c'est un paradigme vraiment différent, la Hongrie. Après, voilà, donc je vois les questions. Une arrivée d'Ukrainiens en masse en Hongrie, c'est pas... Pour le coup, il faut dire que Peter Maguire, lui, est plus... je dirais nuancé sur la question ukrainienne, dans le sens où lui n'a pas de rapport privilégié avec la Russie comme pouvait en avoir Viktor Orban. Viktor Orban qui, pour le coup, négociait en direct avec Sergueï Lavrov, responsable de la diplomatie du Kremlin, pouvait avoir vraiment l'oreille de Vladimir Poutine, ce qui n'est pas le cas de Peter Maguire. D'un autre côté, faut pas oublier que Peter Maguire, dans son discours inaugural, a dit « Nous ne couperons pas toutes les relations avec la Russie parce que, rappelons que 80% du gaz hongrois vient d'un gazoduc qui passe qui justement vient de Russie, lui, et donc que eh bien, la Hongrie est très largement dépendante du gaz russe, comme le sont la Slovaquie et la République tchèque, qui sont d'ailleurs les trois pays à refuser les prêts à l'Ukraine dans au sein de l'Union européenne. Donc, sans doute qu'il y aura une certaine ouverture sur ce niveau-là, à l'Ukraine, qu'il y aura peut-être une position qui sera un petit peu moins favorable à la Russie, qui sera un petit peu plus proche de celle de la Commission européenne, ça c'est loin d'être impossible. D'un autre côté, Peter Maguire lui-même n'est pas du tout un pro-ukrainien, n'est pas un... n'ira jamais, je pense, s'opposer frontalement à Volodymyr Zelensky, mais d'un autre côté, ne sera pas non plus un pourfendeur de Vladimir Poutine. Et voilà. Et après, alors cet homme est-il impliqué dans les affaires sexuelles? Ça, c'est vraiment un sujet qui est intéressant parce que Peter Maguire a une personnalité qui a l'air quand même assez particulière, dans le sens où il a eu plusieurs affaires d'agressions sexuelles qui ont pesé sur lui, notamment par son ancienne femme Judith Varga, l'ancienne ministre de la Justice, qui, elle, pour le coup, a même accusé, commencé un procès contre Peter Maguire pour essayer de, justement, pour dire qu'en fait, il la battait. À côté de ça, d'autres plaintes pour agression sexuelle pèsent sur lui parce qu'on a l'impression que c'est un homme qui collectionne un petit peu les femmes. Et puis, d'une certaine façon aussi, c'est quelqu'un qui consommerait, alors là, je prends vraiment des guillemets, mais en tout cas, qui consommerait de la drogue aussi. Donc, une personnalité qui est quand même un petit peu particulière et en tout cas extrêmement excentrique d'une certaine façon par rapport à un Peter Maguire, à un Viktor Orban, pardon, qui était lui-même assez conservateur.
Très bien. Et donc, première question, dernière question sur le sujet avant, qui est justement une ouverture, comme certains verraient cette nouvelle élection comme une ouverture de la Hongrie, les interférences et les ingérences, puisque notre ami Alexandre Cormier-Denis vient de nous rejoindre, victime de l'hidalguisme. et donc, nous allons laisser reprendre son souffle avant de lui passer la parole. Bonsoir Alexandre Cormier-Denis.
Oui, bonsoir. Merci de me recevoir sur Radio Courtoise. C'est toujours un plaisir d'être là parmi vous.
Toujours
messieurs.
Un grand plaisir. Et donc, Alexandre de Galzin, en Roumanie, parce qu'on donc on l'a vu par le passé, on l'a vu, c'était un grand sujet dans cette émission notamment, on l'a vu en Roumanie avec l'annulation du premier tour des élections en 2024, on l'a vu en Moldavie avec le référendum d'adhésion à l'UE quand von der Leyen est arrivée à la veille de l'élection pour proposer, bah, pour expliquer que 2 milliards d'euros seraient débloqués immédiatement si la Moldavie votait bien, on l'a vu en Géorgie avec immédiatement le refus de reconnaître les élections et en sous-main la mobilisation d'une partie de la population dans les rues pour s'opposer pendant plus d'un an au gouvernement démocratiquement élu. Cette fois-ci, en Hongrie, on a eu quand même trois choses qui ont éclaté la semaine précédant les élections. On a quand même eu, alors la semaine, ça a éclaté officiellement, mais je fais la genèse, dans le désordre, hein, on a eu quelques explosions industrielles en Serbie absolument non identifiées. On ne savait pas à qui, quand, comment, et The Guardian et The Times nous ont expliqué que ce serait peut-être un faux drapeau hongrois pour aider leurs amis russes sur la question. Ensuite, on a eu cette affaire qui a été soulevée par le Washington Post le 24 mars, comme quoi certaines autorités hongroises auraient fait fuiter des documents européens confidentiels sur une adhésion accélérée de l'Ukraine à l'Union européenne auprès des autorités russes. Et ça, cette information sortie par le Washington Post en mars a été soulevée par la Commission européenne le 9 avril, soit trois jours avant les élections, sommant le gouvernement hongrois de s'expliquer. Évidemment, deux jours avant les élections, le service public français qui nous dit « On vous explique pourquoi la Hongrie de Viktor Orban est accusée d'avoir livré les secrets à la Russie de Vladimir Poutine et trahi l'Union européenne. » Donc le 10-04, deux jours avant les élections. Et enfin, sur la question des subventions, là on n'est pas sur une accusation, on est sur un clin d'œil à l'électorat. On a Reuters, pour ne citer qu'eux, mais tous les médias l'ont fait quasiment, puisque Le Monde a surenchéri de quelques milliards, qui expliquait que, évidemment, la chute de Viktor Orban, c'est pas la chute d'un régime, c'est pas la chute d'une idéologie, c'est pas la chute d'une résistance à l'Union européenne, c'est le dégel de 18 milliards d'euros, la manne financière que va toucher le peuple hongrois, qui va se sortir de la misère et qui va vivre de la prospérité européenne. Donc comment est-ce que c'est... Comment est-ce que
quelque chose qui est très simple, c'est que je pense qu'il faut maintenant prendre pour acquis le fait que toutes les élections qui auront lieu, au moins en Europe, seront victimes d'ingérence étrangère. Toutes. Et d'ingérence étrangère dans tous les camps. C'est-à-dire que il faut pas oublier que déjà, on a parlé de, je vais pas revenir sur tout votre rappel, mais effectivement, la Commission européenne ne se gêne absolument pas pour évidemment favoriser le candidat qui l'arrange. Ça, c'est une évidence. Ursula von der Leyen a félicité avec un message dithyrambique Peter Maguire pour son élection, Gabriel Attal, Emmanuel Macron, Pedro Sanchez, tout le camp progressiste de droite ou de gauche, peu importe, dans le fond européiste en tout cas, ont soutenu Peter Maguire durant cette élection, après cette élection. Les ingérences étrangères de l'Union européenne, c'est quelque chose qui est désormais acquis. D'un autre côté, faut pas oublier que dans le fond, la Russie, comme les États-Unis, eux ne se gênent absolument pas pour faire la même chose. C'est-à-dire que, dans le fond, tout le monde veut avoir son mot à dire à une époque où, eh bien maintenant, en fait, si vous voulez, ce qui change par rapport à il y a 20 ans, 30 ans, c'est que avant, à faire une ingérence, commettre une ingérence dans une élection étrangère, c'était, eh bien, j'en sais rien, réaliser des sabotages, réaliser des tentatives d'assassinat, c'était payer des grandes campagnes dans des journaux, c'était essayer d'acheter des journalistes, c'était faire ça. Aujourd'hui, on n'en est absolument plus là. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit quelque part de manipuler des algorithmes, il suffit quelque part de travailler à distance en numérique pour déjà réaliser des ingérences. Et le deuxième point, c'est que qu'est-ce qu'une ingérence étrangère ? Est-ce que Jed Evans, qui se rend à Hongrie, à Budapest, pour soutenir Viktor Orban 10 jours avant 5 jours même avant l'élection, c'est une ingérence étrangère ou pas ? Est-ce qu'elle est... En fait, on a l'impression que dans un camp comme dans l'autre, il y a les bonnes et les mauvaises ingérences étrangères et qu'on dénonce les ingérences étrangères quand elles viennent de pays qu'on n'aime pas. Et dans le fond, ce qui est assez impressionnant, c'est que, oui, il faut le dire, les États-Unis de Donald Trump avec Jed Evans ont réalisé une ingérence étrangère en donnant le soutien officiel des États-Unis à la Hongrie de Viktor Orban. Oui, la Russie de Vladimir Poutine via Sergueï Lavrov, ont réalisé une ingérence étrangère en soutenant officieusement pour le coup, Viktor Orban face à Peter Maguire. Oui, la Commission européenne de son côté et de nombreux pays européens ont soutenu Peter Maguire contre Viktor Orban. Quelque part, il faut se rendre à l'évidence que, ne serait-ce que par la question des diasporas, ne serait-ce que par la question du numérique, encore une fois, n'importe quel pays aujourd'hui peut réaliser une ingérence étrangère sur un autre pays. La question à la fin, c'est quelle ingérence étrangère a le plus de poids ? Vous regardez, par exemple, en Roumanie, moi je pense, il y a évidemment l'annulation de l'élection, mais si on va même plus loin, Georges Semion, lorsqu'il se présente, Maia Sandu, donc je vais la faire très rapidement, en Moldavie, les Moldaves peuvent demander un passeport roumain, parce que la Roumanie est plutôt rattachiste par rapport à l'ancienne Bessarabie qui est devenue la Moldavie. À partir de ce moment-là, Maia Sandu, qui est la présidente actuelle de Moldavie, a dit, prenez votre passeport roumain, cher Moldave, et allez voter pour Nicu Jordan contre Georges Simion. Le tourisme électoral, désormais, c'est quelque chose qui est normalisé. D'un autre côté, il faut dire aussi que Viktor Orban, durant ses 16 années au pouvoir, a favorisé la Transylvanie, les Hongrois qui vivent en Roumanie, en leur donnant de nouveaux droits, en leur donnant de nouvelles possibilités, et ces Transylvaniens votent à 90% pour Viktor Orban. Moi, ça me fait toujours rire quand on parle d'ingérence étrangère de cette façon, parce que tout le monde en réalise. La seule question à la fin, c'est quelle ingérence étrangère a eu le plus de poids. Là, en l'occurrence, ce qu'il faut dire, c'est que j'ai parlé vraiment à de nombreuses personnes pro-Orban. La question, c'est même plus vraiment les ingérences étrangères, c'est simplement qu'avec une victoire donc de 138 sièges quand même sur 199, une victoire à plus des deux tiers, donc la majorité est à 100, les deux tiers à 133, 138 sièges, ça signifie que c'est une victoire éclatante et une défaite écrasante pour Viktor Orban. Bon, c'était la même chose avec Simion en Roumanie l'année dernière, c'est-à-dire qu'il a perdu par plus de 12 ou 13 points d'écart. À partir de ce moment-là, c'est plus simplement des manipulations numériques qui peuvent éventuellement rentrer en compte, c'est que ça traduit quand même un réel sentiment au niveau national.
Alors c'est particulièrement clair. Alors, sur l'ingérence de J.D. Vance, j'ai envie de dire que J.D. Vance, qui va voir le pape François à la veille de sa mort, qui va voir Viktor Orban à la veille de sa mort politique et qui menait les négociations le week-end dernier au Pakistan pour la paix en Iran,
il porte
la poisse plutôt qu'autre chose. Voilà. Alexandre Corbidoni, vous étiez justement ce week-end en France, puisque d'habitude on a le plaisir de vous recevoir depuis le Québec. Le week-end était très chargé, beaucoup de mouvements amis tenaient des rendez-vous, etc. Et j'imagine que vous essayez de profiter au maximum de vos séjours français pour maximiser les rencontres et les interactions et tout ce qui pourrait se passer, tous les projets à venir qui j'imagine seront fructueux. Comment est-ce que vous avez suivi un peu ces élections? Comment vous voyez ça? Et puis comment vous voyez en règle générale cette évolution des conservatismes en Europe, un futur possible, des nouvelles interactions entre pays, peut-être un présage pour la France, comment voit-on ça?
Oui, je sais pas, c'est difficile, hein, parce qu'il y a tellement une vie, en vérité, nationale, politique, qui est auto-centrée. Hein, c'est-à-dire qu'on nous parle d'Europe, mais en vérité, est-ce que véritablement l'électorat français se dit « Mon Dieu, Orban a perdu, est-ce que ça va changer mon vote ?» Pas tant que ça, en vérité. Hein, je pense que il y a des vies nationales assez hermétiques. Je peux prendre le cas du Canada, par exemple, on est dans une fédération, il y a 10 provinces, donc il y a des élections qu'on appelle provinciales, chaque province a sa législature. Franchement, comment votent les Ontariens? On s'en tamponne le coquillard au Québec. Non, mais c'est pour dire, à l'intérieur même d'un pays, une fédération, donc l'Europe est même pas encore totalement fédéralisée. Est-ce que la défaite d'Orban, ça affecte tant que ça Mélanie, l'AFD, le RN? Je suis pas hyper convaincu. Hein.
Est-ce que si des Ontariens ultra-progressistes devenaient conservateurs du jour au lendemain, les Québécois se diraient pas « Eh ben voilà, c'est pas si mal d'être conservateur, en fait, c'est un avenir
». Non, le rapport à l'Ontario est plutôt celui de l'indifférence. Bon, c'est ça. C'est les deux solitudes. Par contre, il faut le dire quand même, quand les États-Unis votent, là, ça peut avoir un effet. Trump a eu un effet, évidemment, avec, bien sûr, ces fameux propos sur l'annexion de 51st State, Governor Trudeau, etc. Donc là, il y a eu un effet. Parce que c'est la superpuissance, parce que, voilà. Il y a aussi, on va dire, un patriotisme de gauche anti-américain-canadien qui a été soudainement réveillé par Trump. Donc là, oui, il y a des effets. Mais c'est un cas très particulier. Hein. C'est évidemment très particulier. Et puis, voilà, c'est quand même...
C'est particulier, mais en Europe, les conservateurs ne regardaient que Trump à une certaine période. Oui, on voyait tous les forums conservateurs en Europe, tous les organisateurs se battaient pour avoir des élus républicains, pour représenter le mouvement MAGA en Europe, qui allait donner une impulsion aux conservateurs pour dire qu'enfin ils étaient crédibles et qu'ils avaient le pouvoir dans la première nation du monde et qu'ils allaient pouvoir le prendre dans les périphéries et que c'était plus des mouvements aux marges de fous furieux qu'il ne fallait pas prendre au sérieux. Bon, la suite de notre émission montrera que peut-être nous pouvons réviser notre jugement sur certains points.
Oui, c'est ça, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, il y a aussi la question de l'isolationnisme, la question de la guerre tarifaire, la question du Groenland. Je pense qu'il y a quand même refroidi beaucoup d'Européens. Donc oui, et croyez-moi, je suis bien placé en tant que patriote québécois pour vous dire que plus que jamais, on a une sphère politique canado-québécoise complètement hystérisée sur la question du trumpisme. Donc tout à fait. Orban, en même temps, j'ai envie de dire 16 ans, quoi. À un moment donné, c'est quoi? Pour que ça soit une réussite politique, il faut rester 40 ans. C'est quoi? À un moment donné, on perd une élection.
Hein. Orban pour Milan.
Orban pour Milan. C'est-à-dire, à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, cycle électoral. En général, chez nous, les premiers ministres font 2 mandats. En général, hein, ils font 9 ans, 8 ans. C'est à peu près ce à quoi ça ressemble. Trudeau a fait 3 mandats, 1 majoritaire, 2 minoritaires. Ça a donné 9 ans. Harper a fait à peu près la même chose, 9 ans. Donc, voilà, 16 ans, c'est une belle réussite. Le type qui est en face de lui, on va juger sur pièce, en vérité.
Bien sûr.
Mais il vient pas de l'extrême-gauche LGBT. Hein. C'est-à-dire, c'est un type qui, il y a 2 ans auparavant, était dans le même parti. Donc, la matrice idéologique, on peut considérer qu'elle n'est pas extrêmement tant que ça éloignée non plus.
Mais même sur la méthode politique, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, Viktor Orban était un populiste.
Ouais.
Peter Maguire est lui aussi un populiste, c'est-à-dire que même sur la méthode politique, en fait, c'est exactement la même chose. Et quelque part, d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que la victoire de Peter Maguire est encore plus large que celle que Viktor Orban avait pu obtenir à son meilleur score, donc en 2010, je crois, où là, pour le coup, il avait réalisé, pareil, une majorité aux 2 sièges assez large. Peter Maguire fait encore mieux, mais parce que, en fait, simplement, c'est... C'est une image, c'est Peter Maguire, c'est une marque, c'est une manière de parler, et c'est la marque anti-Orban, quelque part. Mais encore une fois, sur le projet politique, est-ce que, il a pas forcément de matrice idéologique, Peter Maguire, mais d'une certaine façon, parce qu'il est populiste, parce qu'il a cette méthode populiste, il n'ira pas gouverner contre son peuple, qui est massivement anti-immigration, massivement conservateur, etc.
Oui, à moins qu'il y ait une trahison, et que von der Leyen, finalement, qui le célèbre, ait raison.
Oui, elle ne nous déçoit jamais, quelque part.
Exactement, donc voilà, on ne sait pas trop sur quel pied danser, donc on verra.
Donc sur cette question hongroise, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Donc en effet, la fin d'un règne, le début peut-être d'un nouveau, on verra dans 16 ans, et en effet, on jugera sur pièce, même si on sait d'où il vient, on ne sait pas encore où il va. Et en tout cas, son discours inaugural ne marquait pas une rupture avec la politique de Viktor Orban. Donc, à voir. Et nous suivrons ça avec grand intérêt. Alors, nous avons dit que ce soir, nous parlions de sujets d'actualité brûlants. Ils le sont tous en ce moment, donc ça va être dur de choisir. Mais on va parler du cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis, mais au sens large. On ne va pas se fixer de limite, puisque je pense que ça a été traité sur Radio Courtoisie par à peu près tous les intervenants. On peut rappeler que le 8 avril, les États-Unis ont annoncé un cessez-le-feu temporaire de 2 semaines, que des premières négociations, des premières violations du cessez-le-feu ont eu lieu. Bon, ça, dans toute demande de cessez-le-feu aujourd'hui, il y a des violations, donc ce n'est pas quelque chose qui est particulièrement étonnant. Ce qui a été le plus notable, c'est Israël qui, dès le lendemain de l'annonce du cessez-le-feu et de Trump qui dit que les 10 points soulevés par l'Iran ne sont pas déraisonnables et qu'un de ces 10 points comprend la paix immédiate avec ses proxys déployés dans la région, et qu'Israël, le lendemain, commet sa journée la plus meurtrière depuis l'intégralité de la guerre contre le Hezbollah. On voit un positionnement clair et politique de Netanyahou qui nous dit: vos négociations auxquelles vous ne nous avez pas invité, pour l'instant, comme vous dites, Alexandre Cormier-Denis, on s'en tamponne le coquillard. Et donc des négociations qui ont lieu ce week-end, 15 points pour les États-Unis, dont 2 lignes rouges, 10 points pour l'Iran, dont 2 lignes rouges. On a l'impression que les lignes rouges des États-Unis, c'est in fine un retour au statu quo ante. Donc, que dire en fait? Que dire de tout ça? Que dire de cette guerre? Est-ce qu'il y a un vainqueur? Est-ce qu'il n'y a pas un vainqueur? Qu'est-ce que ça dit de la puissance des États-Unis et du mouvement MAGA? Alors, on détaillera tout ça dans la durée, hein, répondez pas à tout d'un coup.
Mais
votre vision de la chose à chaud.
Neuf questions pour
Ouyou. C'est vrai que c'est difficile de finalement se prononcer parce qu'on n'a pas le résultat définitif. Est-ce qu'il y aura escalade? Est-ce qu'on va finir comme Irak 2003 en déployant des milliers de troupes américaines? Est-ce qu'on va financer les islamistes balouches et puis les communistes kurdes pour faire la guerre civile? On ne sait pas, en fait. Est-ce qu'on est dans l'escalade totale et absolue ou pas? Est-ce que Trump va se retirer la queue entre les jambes parce qu'il ne veut pas perdre son électorat isolationniste? Enfin, tout est sur la table, en vérité. Donc, c'est très difficile de se positionner parce qu'on est un peu face à un point d'interrogation. Moi, il y a deux presses que j'aime... On peut toujours lire la presse iranienne, mais c'est un peu une presse de régime peu critique, on va dire, des actions du gouvernement. Mais la presse israélienne est très intéressante à lire, en vérité. Parce que si on a une espèce de consensus au sein de la société israélienne pour un peu, entre guillemets, en finir avec l'Iran, quoi, c'est un peu l'ambiance quand même en Israël. C'est des gens qui sont très motivés à finalement en terminer avec ce qu'ils voient comme un problème géopolitique. Il y a quand même beaucoup de gens qui critiquent Netanyahou. C'est-à-dire en se disant, il nous a amené dans une espèce de séquence où on a l'air de perdre, en vérité. Et est-ce qu'on n'a pas eu une forme de naïveté en pensant qu'en bombardant simplement l'Iran et en entraînant les Américains à bombarder avec nous, il y allait avoir un soulèvement populaire? C'est ce qu'on entendait sur plein de plateaux de télé, et je le dis, partout en Occident. C'était pas seulement en France qu'on entendait ça, ou aux États-Unis. Partout en Occident, il y avait comme un mot d'ordre: ah, vous allez voir, les Iraniens, en fait, fréquentent plus les mosquées, ils détestent ce régime, ils vont se soulever, et il y a des hordes de femmes qui veulent finalement un OnlyFans qui vont faire tomber le régime. C'était un peu ça l'ambiance, quand même, parfois dans certaines rédactions.
Alexandre Cormier-Denis, je trouve que vous êtes le nord-américain occidentaliste le plus lucide que j'ai vu. C'est-à-dire que, honnêtement, j'avoue que j'arrive pas à comprendre tout à fait votre position, quand même, parce que d'une certaine façon, vous avez toujours été occidentaliste, encore une fois, pour une forme d'opposition, sur laquelle je vous rejoins, mais en tout cas, au tiers-monde, etc., et à tout ça. D'un autre côté, vous constatez, vous aussi, l'échec globale quand même des États-Unis, et puis même de manière...
La critique de certains camps, mais, on verra pour la finalité des choses.
Non mais, même, et puis même d'Israël, qui effectivement est souvent rangé de facto dans le camp occidental, j'allais dire, c'est assez surprenant pour un occidentaliste.
Oui, mais moi je suis un homme lucide, hein. C'est-à-dire je défends l'Occident, parce que pour moi je défends un peu qu'est-ce qui semble être vrai. Donc quand est la vérité, je nomme le réel en vérité. Donc il y a un réel, il y a un affrontement géostratégique, selon moi, entre guillemets, des BRICS, on peut nommer ça comme on veut, entre guillemets, un peu du tiers-monde et de l'Occident, il y a une volonté de revanche. Mais après, moi, je constate le réel. On a, et je dis « on », c'est pas juste une formule. Nous avons été en Afghanistan. Quand je dis « nous », c'est les Français, les soldats québécois sous uniforme canadien, les Américains, nous tous, enfin à divers degrés, mais... On a passé 20 ans en Afghanistan pour se retrouver avec quoi? Les talibans au pouvoir 20 ans plus tard. Donc, à un moment donné, il y a une naïveté quand même chez les Occidentaux à dire on va faire des changements de régime et un claquement de doigts, soudainement, les populations vont se mettre à vouloir voilà, la liberté, les hot dogs, le baseball. Non, mais il y a un peu ça quand même.
Oui, bien sûr.
Et évidemment, on va me dire oui, mais les Américains, ça a fonctionné en 1945. C'est ça le grand problème, c'est que bombe atomique sur le Japon, et maintenant les Japonais, bah, ils sont alignés, ils sont sympas, ils font des mangas, mais je veux dire, c'est plus une puissance rivale dans le Pacifique. Même chose avec l'Allemagne qui est complètement alignée sur les États-Unis. Donc en vérité, les Américains veulent ad vitam aeternam reproduire le schéma de 45. Et à un moment
et
donné...
ils reproduisent ad vitam aeternam celui du Vietnam.
Ben c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné... il faut prendre acte des choses, qu'il y ait du containment contre la puissance iranienne, que le fait que l'Iran possède l'arme atomique, que ça crée un problème pour la Pax Americana au Proche-Orient, que ça crée un problème, on va dire, sécuritaire, un peu paranoïaque.
On notera le conditionnel, puisque rien ne démontre que l'Iran avait ou se rapprochait d'avoir une arme nucléaire.
Non.
Comme Tulsi Gabbard le disait elle-même, la veille de la guerre.
Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, dans la rhétorique,
oui,
dans la rhétorique globale,
bien sûr.
Non, mais dans la rhétorique globale quand même de l'administration israélienne et américaine, on comprend qu'il y a comment je dirais, une inquiétude, et évidemment, le financement du terrorisme, le Hezbollah, qui a repris maintenant la main, ou également qui finance le Hamas, donc ça cause des problèmes, on va dire, régionaux. Ça, on peut comprendre ça. Mais de là à, évidemment, se lancer dans une opération militaire de grande échelle où on se dit quelle est la finalité. Parce que si le régime ne tombe pas, et ce qui ressort, pourquoi je parle de la presse israélienne? Ce qui ressort de la presse israélienne, alors après, c'est peut-être de l'intox, on ne sait pas. Mais ce qui ressort de la presse israélienne, c'est que les Israéliens se sont auto-convaincus et ont convaincu les Américains qu'avec des bombardements, il allait se passer quelque chose à l'interne de la société iranienne et que le régime allait tomber. Bon, moi, j'ai de la difficulté à me dire que le Mossad et que la CIA sont aussi nuls que ça. Peut-être qu'il y a des objectifs géopolitiques derrière. Peut-être que les Israéliens ont poussé à fond les Américains à croire cela. Ce qu'on reçoit également comme information de la presse américaine, c'est que les services américains n'étaient pas hyper convaincus. Hein.
Oui, mais d'ailleurs, même, il y a eu un papier très important, très intéressant dans le Washington Post, dans lequel ils essayaient de faire la genèse, justement, du début de l'offensive. Et alors, ce qui est absolument fascinant, c'est qu'absolument tout le monde disait, même Jared Kushner, hein, même des personnes qui sont connues, ou même Steve Witkoff, qui sont quand même des personnes connues pour être très pro-israéliennes, qui sont connues pour être globalement très favorables à Trump, etc. En fait, reconnaissaient à demi-mot qu'ils avaient essayé un peu de dissuader Trump d'y aller.
Et dans les réunions préparatoires, tous,
oui.
Vince, tout le monde a émis un avis de réserve sur la question, et Trump est sorti de là, hypnotisé par Benjamin Netanyahou et le Likoud, et surtout l'aile droite, et à droite de la droite du Likoud, en disant « mais quel génie ces hommes !» En effet, je pense qu'on tient un truc là.
Ouais. Et non, mais même, en fait, ce qui est génial, c'est que est-ce que ils disent ça a posteriori parce qu'ils voient que c'est un échec, parce que je pense que dans tous les cas, là où on peut être unanime, c'est que c'est un échec et que, en tout cas, au moins pour l'instant, c'est un échec absolu et que d'une certaine façon, personne n'a envie de, j'allais dire endorse, mais enfin d'assumer la responsabilité de cette opération. Est-ce que c'est parce que c'est un échec qu'ils s'en défaussent, ou alors est-ce que c'est vraiment le cas et est-ce que Trump a réellement été, on va dire, intoxiqué, lui, par Netanyahou, Ben-Gvir, Smotrich et compagnie? Ça, c'est encore, encore une inconnue.
On nous fait signe depuis la technique qu'il est l'heure de passer un petit bobino. Nous vous revenons dans quelques secondes.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
Alors sur ces grands questionnements que nous posions avec Alexandre de Galzin et Alexandre Cormier-Denis sur l'Iran, sur pourquoi aujourd'hui certains n'assument pas, Trump semble... Alors on a eu certaines rumeurs à un moment que Trump semblait sous-informé par ses équipes proches du manque d'efficacité des frappes sur les objectifs, ou en tout cas du manque de résultats finaux stratégiques sur la frappe de ses objectifs. Moi, depuis mon poste de directeur des opérations des SOS Chrétiens d'Orient, ça me rappelle la chute de Bachar al-Assad, que ses généraux évitaient de prévenir de risques potentiels des rebelles et de leur avancer pour éviter de le froisser et pour éviter d'avoir à subir l'ire de Bachar al-Assad à son réveil. Mais vraiment, je pense que la question aussi, avant de se demander pourquoi tout le monde s'en défausse, c'est aussi pourquoi les États-Unis y ont été. Et en effet, vous disiez Alexandre Cormier-Denis, c'est pas possible de penser que l'Occident a été aussi stupide. Alors moi, il y a une question que je me pose et qui pourrait nous permettre de rebondir aussi un peu plus tard sur la question de la politique américaine, notamment religieuse. C'est la question d'une certaine droite protestante évangélique américaine. J'avais lu le livre Crippled America de Donald Trump de 2015, qui sur la vingtaine de livres qu'il a écrit, apparemment l'art du deal, ça n'a pas fonctionné pour l'Iran, mais sur Crippled America, qui est son seul livre à vocation de programme pré-campagne présidentielle, il a un chapitre sur les relations internationales et un tiers de ce chapitre, c'est pour le bien d'Israël, nous devrons faire la guerre à l'Iran. Et c'était annoncé dès 2015 et c'est quelque chose qui, je pense, est resté quelque chose de religieux et dogmatique dans son esprit. Et quand on entend Tucker Carlson en 2003 qui interview Ted Cruz, le puissant sénateur du Texas, et Ted Cruz qui lui répond « Il est devoir pour tout chrétien, et les États-Unis sont une nation chrétienne, de défendre Israël », et j'anticipe la réponse de la question et la réponse face à la question de Carlson, et il répond oui, et Israël, c'est le gouvernement israélien aujourd'hui. Mmh. En fait, on se dit qu'il y a quelque chose d'aussi un peu religieux, c'est-à-dire qu'il a été dans une forme de déconfliction sur beaucoup de conflits de la planète. Il a essayé d'intervenir entre l'Inde et le Pakistan, il est intervenu entre l'Inde et le Pakistan, il a essayé d'intervenir entre la Russie et l'Ukraine, ça on cherche toujours, mais il a essayé d'intervenir auprès de Netanyahu sur d'autres sujets, etc. Et là, d'un coup, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus rien. Il y va tout droit et sur une guerre de grande ampleur. Là encore, ce n'est pas capturer Maduro dans son lit au Venezuela. Là, on parle vraiment, on est passé à deux doigts, est-ce qu'on n'y est pas, d'une invasion terrestre. Quand il a fait son message sur l'annihilation de 4000 ans d'histoire, on s'est demandé s'il n'avait pas envoyé l'arme nucléaire, parce que là, plus personne ne savait plus rien. Plus aucun analyste ne comprenait ce qui se passait.
Et le lendemain, c'est le feu d'ailleurs. Mais
voilà, c'est ça. Oui. Donc, est-ce qu'on n'est pas vraiment sur quelque chose de semi-mystique?
J'ai de la difficulté avec ça, parce que je pense pas que Trump est très, très, très ni croyant, ni trop dans la mystique. On se rappellera ce qui se passe avec la Corée du Nord. Hein. Il avait quand même dit, mon bouton est plus gros que le tien, et il nous avait fait le coup. Hein. Trump, il fait du Trump, en vérité. Là. Donc, là-dessus, et d'ailleurs... c'est pas George Bush non plus. Les milieux protestants, évangéliques savent très bien que Trump a une vie complètement dissolue. Il joue un peu la carte du conservatisme chrétien, mais je dirais en populiste. Hein? C'est pas quelqu'un qui a non plus de... Je veux dire, oui, comme show business, il a mis de l'avant un peu une foi... chrétienne, mais de façon très électorale, et je pense que c'est pas le fond de l'histoire. En tout cas, moi, je l'interprète pas comme ça.
Il y a un point. Bon, après, on va basculer sur peut-être un sujet suivant aussi. Mais d'un autre côté, il y a quelque chose qui est indéniable aux États-Unis, c'est que déjà les évangéliques sionistes ont pris une place quand même particulièrement importante dans le débat public et auprès du gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a quand même une mouvance. En fait, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que je suis convaincu que Donald Trump lui-même ne croit, enfin, en fait, s'en moque plus ou moins, ou en tout cas n'accorde pas de plus d'importance que ça au sujet religieux. En revanche, peut-être par populisme effectivement, il a quand même donné un poids très important aux évangéliques sionistes, aux évangéliques très religieux. D'ailleurs, on voit, alors le nom de sa responsable justement du culte m'échappe, mais elle est particulièrement investie justement dans ce sens, en expliquant que Trump, elle a quand même dit que Trump était le messager de Dieu et que, mais elle l'a dit hein, pour le coup, c'est quelque chose qu'on pourrait entendre.
Il nous l'a prouvé avant-hier.
On pourrait l'entendre, mais on pourrait l'entendre en Iran quelque part. Mais que Trump était effectivement le messager de Dieu, que quelque part il y a eu cette image où en fait on voit tout le monde en train de prier la main sur l'épaule de Trump, etc. On voit qu'il y a ça. Et d'un autre côté, moi, c'est quelque chose que j'aimerais souligner aussi, c'est que c'est le cas déjà depuis plusieurs mois, notamment par la voix de J.D. Vance, mais enfin par la voix cachée quelque part de J.D. Vance, mais aussi c'est le cas de façon beaucoup plus appuyée ces derniers jours, c'est que les catholiques sont de plus en plus éloignés de la manière de gouverner de Donald Trump, notamment au niveau géopolitique et même au niveau intérieur. Alors, on va pouvoir
le développer
après, hein, mais au niveau du pape ou même de l'image qu'il a publiée sur, sur les réseaux sociaux qui ont beaucoup choqué les catholiques. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Donald Trump donne beaucoup de gages à l'évangélisme sioniste.
Oui, mais ça, c'est une évolution qui date en fait de Reagan et qui a été radicalisée par Bush fils. Hein. C'est pas quelque chose de nouveau non plus.
Non, mais chez Trump, c'est nouveau.
Ouais, mais
à la fin de son premier mandat, on est quand même resté sur « Je veux faire de Jérusalem la capitale éternelle de l'État d'Israël ».
Oui, non, mais ça c'est encore autre chose.
Ça c'est encore autre chose
dans la mesure où Trump est, alors ça c'est évident. Historiquement, c'est le président américain le plus pro-israélien qu'on a jamais vu. Donc reconnaissance de Jérusalem, déplacement d'ambassade à Jérusalem, reconnaissance du Golan, les accords d'Abraham, hein, donc normalisation finalement. Des relations diplomatiques avec le monde arabe.
Ça peut servir au-delà d'Israël, mais en effet, oui, ça sert aussi les intérêts sécuritaires et économiques d'Israël.
Oui, exactement, mais ça sert à la limite à la Pax, je ne sais pas si on peut appeler ça la Pax Judaïca voulue par Trump au Proche-Orient, qui est peut-être une Pax Americana, mais au fond, Israël sert un peu de point d'attache à ce système sécuritaire proche-oriental américain. Et voilà, dans le second mandat, ben, on a eu évidemment le soutien total à la réaction de Netanyahou sur le Hamas. Le seul point en vérité où Trump a dit non à Israël, c'est sûr, et à la frange la plus, on va dire, nationaliste du sionisme religieux en fait, ça a été le refus de l'annexion de Gaza. C'est-à-dire qu'il a dit non, il n'y aura pas d'annexion. C'est le seul point vraiment où on peut dire Trump a mis une espèce d'arrêt aux ambitions géostratégiques territoriales israéliennes. Mais sinon, ouais, on est dans un alignement avec les franges les plus, on va dire, les plus décomplexées du nationalisme israélien. Donc, les frappes sur l'Iran, on a passé un autre cap. Là on est littéralement dans... littéralement ce que l'état-major israélien voulait. Le problème d'Israël, c'est qu'en vérité, ils n'ont pas la puissance. Ils ont la volonté, mais à un moment donné, ils ne feront pas une invasion non plus de l'Iran. Donc, est-ce que Netanyahou souhaiterait une invasion de l'Iran style Irak 2003? Probablement. Mais le problème, c'est l'appétit américain. Il n'y a plus d'appétit américain. Les guerres sans arrêt au Proche-Orient pour des conflits très abstrait. Il faut se mettre dans la tête d'un électeur américain. L'Iran, le Proche-Orient, la Syrie, tout ça est très abstrait. Et en vérité, Trump a été pris un peu à son propre jeu parce qu'à un moment donné, Make America Great Again, une sorte d'isolationnisme.
America First. Non, mais America First, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est le slogan. Mais d'ailleurs, alors moi, pour le coup, c'est alors quelqu'un évidemment avec qui je peux pas m'aligner pour de nombreuses raisons, mais Nick Fuentes, lui, incarne. Non, mais pour le coup. Incarne la frange radicale, on va dire, de l'America First. Alors, c'est très particulier, c'est un ovni, je sais, etc. Mais dans ce qu'il dit, il y a une chose qui traduit le sentiment quand même de beaucoup d'Américains, c'est que, en réalité, Donald Trump a quand même été élu sur un programme de paix. Il a quand même été élu sur un programme de non-interventionnisme. Et finalement, tout ce qu'il a fait depuis le début de son mandat, depuis un an, c'est intervenir, mais même pour faire la paix hein, d'ailleurs, mais intervenir dans les conflits et à côté de ça, rentrer dans le pire conflit pour un America First, qui est un conflit initié par Israël.
Oui, exactement. Et on voit comment Trump peut être très dur face à Zelensky, face à l'Ukraine, oui. Hein, face aux autres nations, on va dire européennes, blanches et chrétiennes, il est très dur et il est très complaisant avec Israël. Donc, à un moment donné, c'est sûr que ça suscite un peu des questions dans son propre camp. Les alliés traditionnels sont un peu bolossés sur la question des tarifs douaniers. Le Danemark, qui est un bon élève de l'OTAN,
oui.
et comment je dirais, ouais, est mis face
mais,
à...
Justement, pardon, j'ai une question pour vous là-dessus, mais comment est-ce que vous avez vu la question groenlandaise depuis le Québec? Parce que c'est pas loin.
Ah ben, c'est l'hystérie chez nous.
Ouais.
Je veux dire, j'ai jamais vu une hystérie anti-américaine comme ça de toute ma vie. Même en 2000. Alors, en 2003, il y avait des manifs parce qu'on était contre la guerre en Irak, bon, etc. Mais je veux dire, depuis, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire, Trump, c'est la une de nos journaux, jour après jour, après jour, après jour. Enfin, on a l'impression de vivre dans un État démocrate, quoi, en fait. Ce qui est un peu le cas, là, soyons honnêtes, là. Qu'est-ce que le Canada, c'est pas... qu'est-ce que sont les Canadiens, c'est pas des Américains de gauche, là. Il y a un peu cet aspect-là. Donc oui, bien sûr, ça a été vécu de façon totalement traumatique et ça a refait... ça a remis de l'avant l'idée de l'annexion. On s'en va vers des renégociations de l'accord de libre-échange avec les États-Unis. Et je peux vous dire que là, on va être dans une séquence trumpiste radicalisée encore plus. Et bien sûr... Trump va nous ressortir. Là, il ne dira plus le gouverneur Trudeau, parce que c'est plus Trudeau, c'est son conseiller économique Carney, qui est la caricature mondialiste. Je veux dire, autant Trump est une caricature nationale populiste, autant le premier ministre canadien est une caricature mondialiste. Et donc, en vérité, on va se retaper ça avec des propos sur le 51e État. Donc, on vit à l'heure américaine. Donc, oui. Je vous le dis tout de suite. Hein. Et là, l'Iran, ça rajoute juste une couche un peu d'hystérie supplémentaire.
Et la droite québécoise, les souverainistes québécois s'en sortent un peu là-dedans, ou justement, est-ce qu'ils sont taxés de trumpisme?
Ah oui, évidemment.
Pardon, désolé, je deviens un peu interviewé.
Non, mais justement, répondre à ça, et comme ça, je pourrais placer une question que j'aurais du mal à placer autrement, parce que okay. C'est pile poil le moment.
Ah,
donc,
allez-y. Ben oui, les accusations de Trumpistes, hein, la réductio Trumpinus, je sais pas comment dire, Trumpinum. Oui, ça c'est classique. Non, c'est très compliqué pour les souverainistes québécois, parce qu'en vérité, soyons honnêtes, si on voulait faire sauter un pays du G7, un pays de l'OTAN, un pays du Nord, qui est le Canada, qui est une social-démocratie, qui a grosso modo une réputation internationale qui fonctionne bien, il n'y a pas de guerre civile, etc., ben, il faudrait s'appuyer sur les États-Unis pour casser le Canada. Or, en vérité, les Québécois sont beaucoup plus anti-américains qu'anti-canadiens. Mmh. Donc, ça solidarise les Québécois avec le régime fédéral canadien, forcément. Parce que là, on se dit, OK, mais en fait, à la limite, pour sortir du Canada, ils font un accord de libre-échange avec les États-Unis. Il faut des relations pacifiées le plus possible avec les Américains. Évidemment, avec la France, mais aussi avec les Américains. Et là, on est dans l'hystérie. Donc, si le mouvement souverainiste québécois était sérieux, entre guillemets, il irait voir Trump pour négocier quelque chose. Mais face à son propre électorat, c'est pas possible. Donc il y a un peu une sorte d'aporie, en quelque sorte, de ce souverainisme-là. C'est d'ailleurs pour ça que je suis opposé à la tenue d'un troisième référendum sur la sécession.
Oui.
Parce que je pense qu'on s'en va à l'abattoir, que ça humiliera le nationalisme québécois et qu'il faut essayer de se préserver le plus possible d'une défaite annoncée.
Oui, choisir le bon moment.
Ouais. Bah, justement, alors c'est très bien parce que cette question, on pourra vraiment pas la placer à un autre moment. C'est une question d'auditeur qui est spécifiquement orientée là-dessus et qui a une question pour notre compatriote du Québec. Est-ce qu'à son avis, René Lévesque a été un patriote du Québec libre ou bien un De Gaulle québécois? Je vous ai compris, quand il a été Premier ministre, il n'a rien fait de concret pour la création d'un État au Québec.
Je pense qu'avant toute chose, René Lévesque est un social-démocrate. C'est quelqu'un qui savait, quand il tient son référendum en 1980, que ça ne passerait pas. Mais par démocratisme, il l'a fait quand même. Et malheureusement, ça a eu des conséquences dramatiques pour le Québec, puisqu'il y a eu une défaite donc référendaire. Et ça a donné l'impulsion à son grand rival, Pierre-Éliott Trudeau, le père de Justin Trudeau, de signer la Constitution, en fait, de rapatrier la Constitution de Londres, qui a nié l'existence de la nation historique canadienne-française et qui nous a imposé en plus le multiculturalisme dans la Constitution. Donc, en vérité, ce premier référendum de 1980 a été catastrophique pour la nation historique canadienne-française et le Québec, et René Lévesque a pêché par démocratisme, et malheureusement, le mouvement souverainiste québécois, qui est un mouvement de gauche, qui est un mouvement avant toute chose social-démocrate, qui est un mouvement, je dirais, un peu platonicien. Hein, il est dans le grand monde des idées. Il faudrait qu'il relise un peu plus Aristote. Et en vérité, il se perd dans des considérations sur la démocratie, alors que nous sommes dans une lutte géostratégique, lutte qu'il n'a jamais compris. Et ça donne ce que ça donne, c'est-à-dire un mouvement, finalement, qui a été humilié par deux défaites référendaires, où finalement la stratégie qu'on a encore aujourd'hui, c'est un peu la stratégie catalane, hein, c'est une déclaration unilatérale d'indépendance hors du droit de l'État central, avec les conséquences qui viennent avec, une décrédibilisation.
Donc, et malheureusement, vous n'avez pas de Pedro Sanchez qui serait prêt à vendre la Catalogne ou le Pays Basque, histoire d'être réélu, quoi.
Ah oui, ben c'est ça. Bon, en même temps, est-ce que la Catalogne va vraiment un jour être souveraine, malgré
Pedro Sanchez? Vous savez, si ça permet une réélection de Pedro Sanchez, c'est pas exclure.
Alors justement, on parlait de radicalité tout à l'heure, parce que là, on risque de partir sur des grandes considérations géopolitiques, et surtout Macron qui apparemment pense à lâcher beaucoup d'îles françaises et de positions territoriales françaises. Rachèterait-il le Québec? Je n'en suis pas certain.
Moi, je suis pour.
Si on vote autour de la table ce soir, je pense que voilà.
Mais mais Macron, il veut le CETA, il veut l'accord de libre-échange avec le Canada.
Oui, bien sûr.
Donc, il s'entend très bien avec Mark Carney. C'est
bien
le même
logiciel.
Enfin, pardon. Je me place, enfin, vraiment, c'est mon côté journaliste qui reprend un peu le dessus quelque part, mais moi j'avais été assez frappé parce que évidemment je connais très peu McCarney, moi je connais très peu la question canadienne, mais j'avais été très frappé par la lucidité au contraire dans son discours à Davos, où en l'occurrence, alors je sais pas, en fait j'ai l'impression que c'est un peu comme Macron. C'est-à-dire que Macron, alors, tout ancien macroniste que je suis, pardonnez-moi chers auditeurs, je vais dire quelque chose de positif sur Macron, c'est quelque chose qui m'arrive très rarement, mais là je vais le faire. J'avais été très agréablement surpris par le discours d'Emmanuel Macron à Davos, qui était en réalité plutôt un discours de fermeté et de force. Malheureusement, Macron ne tient pas ses discours. McCarney, j'avais eu, exactement, McCarney, j'avais eu une impression un petit peu semblable dans le sens où son discours sur la fin du monde libéral, multiculturel, ouvert, du monde unipolaire, était quand même particulièrement lucide et réussi, je trouve, tant sur les références d'ailleurs que sur la manière, enfin sur le contenu. D'une certaine façon, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut en penser, nous, en bon soutien de l'indépendance québécoise?
Oui, le problème, évidemment, de Mark Carney, c'est qu'il est pris. Alors, c'est l'homme de Davos. Hein. C'est l'homme où il est très à l'aise là. C'est l'homme de Goldman Sachs. C'est l'homme de la Banque d'Angleterre, de la Banque du Canada. Il a la triple nationalité irlandaise, britannique et canadienne. C'est l'homme des aéroports et des forums internationaux. Donc, c'est l'homme qui est totalement à l'aise pour faire un discours à Davos, pour serrer des mains dans une campagne électorale et manger du blé d'Inde avec la populace. C'est autre chose. Donc, en vérité, ça ne surprend pas qu'il soit bon là. Le problème, c'est que nous, on n'est pas un pays européen. On est pris avec une géographie. Et la géographie, c'est quoi? Il y a l'Arctique au nord, il y a l'Alaska, puis il y a la deuxième plus grande frontière du monde avec qui? La superpuissance américaine. Et on a besoin d'avoir accès à ce marché, et on est dans l'OTAN, on est dans le NORAD, ça ne changera pas, Mark Carney peut pérorer à Davos, il y a une réalité géostratégique nord-américaine dans laquelle on est prise. On a la politique de notre démographie, c'est comme vous avec les Allemands, c'est comme ça. Hein? C'est-à-dire, d'une façon ou d'une autre, on n'est pas obligé de s'aimer, mais c'est pas la raison pour faire un troisième.
De toute façon, j'allais dire, le Québec peut bien prendre son indépendance, il partira pas
des continents américains. Voilà, dans l'Atlantique. Hein.
On pourrait essayer ceci.
Pour sur cette hégémonie américaine, comme ça, on clôture sur ces questions géopolitiques des États-Unis. Alors, pas totalement, puisque le prochain sujet, attention, on ne le dévoile pas, mais reste un peu sur le domaine. Mais on avait un Trump pré-Iran, pardon, qui ne sera radicalement pas le même que le Trump post-Iran. On avait un Trump qui avait, alors on peut lui trouver tous les points négatifs qu'on veut, et il y en a un paquet, mais qui, sur l'immigration, je pense, avait fait plaisir à son électorat, malgré fait, alors je sais qu'on ne sera pas d'accord, peut-être Alexandre de Gazin sur la question, mais alors que même s'il est parti la queue entre les jambes de Minneapolis, il avait fait plaisir à une partie, en tout cas, de son électorat sur les questions migratoires, il avait abaissé massivement le prix de l'essence aux États-Unis, au Venezuela, au Venezuela, on a beau en penser ce qu'on en veut, même si on
c'est
est, j'ai des amis extrêmement non alignés qui, le soir tout seul dans leur chambre, rêvent à une opération héliportée sur un pays pour enlever un président en train de dormir sans perdre un seul homme ni un seul appareil. On avait un Trump tout puissant qui, il arrive au pouvoir. On a un monde qui est en train de devenir un monde multipolaire, qui quitte le gendarme du monde. Les BRICS sont en train de se reformer, deviennent les BRICS+. On parle de dédollarisation des échanges et on a quelque chose de vraiment sérieux entre le Brésil, entre la Russie, entre la Chine, entre tout ça qui se met en place et qui en a marre de cette hégémonie américaine et qui commence, on voit poindre un véritable monde multipolaire. On a un Trump qui arrive, qui au bout de quelques mois nous dit tout ça c'est fini, et en effet qui bloque une partie des exports énergétiques du Venezuela, qui commence à être très fort sur le dollar et expliquer que ça se passera pas comme ça et que la monnaie d'échange internationale restera le dollar, etc. Et on en est là à la veille de la guerre en Iran. Comment les États-Unis vont sortir de la guerre en Iran ? Est-ce que la Chine, qui la veille de la guerre en Iran se posait la question sur Taïwan, va se la poser encore très longtemps ? Est-ce que tous les grands ennemis des États-Unis qui attendent pour sortir du bois, ou des gens comme la Turquie qui pourraient avoir des velléités, mais qui attendaient de voir ce que Trump pouvait faire, ne vont pas sortir du bois ? Est-ce que les BRICS ne vont pas enfin se dire c'est bon, ils sont affaiblis, c'est le moment d'aller sortir la dédollarisation et de créer notre système et d'enfin créer ce monde multipolaire ? Est-ce qu'on va pas en arriver là, enfin ?
C'est une bonne question, voilà, c'est difficile de répondre à tout ça. Moi, je pense qu'il y a, une façon un peu de voir ce qui se produit comme, comment je dirais, comme une sorte de guerre froide plus. Hein. C'est-à-dire, je pense qu'on est déjà dans quelque chose comme une sorte de troisième guerre mondiale, mais hybride, avec finalement différents moyens pour mener la guerre. Peut-être des opérations de, voilà, de... un peu de punition de certains régimes. Hein. Si là, le régime iranien tombe pas, les États-Unis pourraient se retirer, revenir dans 5 ans, redire, voilà, votre programme nucléaire, ça nous plaît pas, rebombarder, etc. Donc, on a l'impression qu'on peut rentrer dans une espèce de cycle, un peu d'instabilité assez long. Et je pense que si on considère qu'on est déjà dans une confrontation géostratégique majeure, on peut voir, dans le fond, la guerre Russie-Ukraine comme un front. Le second front en Iran, qui vient d'être chaudement allumé par Trump. Et tout ce qui manque, en vérité, c'est un peu Taïwan, hein, pour que là, on ait le portrait total et complet de ce qui est en train de se produire. Donc, sommes-nous, et évidemment, c'est toujours la même question, parce qu'on ne peut, pas faire une reprise, en quelque sorte, de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y a les questions nucléaires. Donc, évidemment, ça change les choses. Il y a les questions technologiques. La guerre en Ukraine a développé un champ totalement nouveau dans les techniques militaires, le drone, l'arme du pauvre, où finalement on a des drones qui coûtent presque rien, qui sont capables de faire sauter des chars qui coûtent des centaines de millions, quoi, en vérité, ou des dizaines de millions. Donc, en vérité, on est dans un basculement technologique, on est dans une radicalisation de ce qu'on pourrait appeler une sorte de revanche du tiers-monde, plus, hein, parce que bon, là, est-ce qu'on peut vraiment inclure la Russie là-dedans? En tout cas, les Russes sont un peu en mode post-soviétique, humiliés par l'effondrement de 91, veulent prendre leur revanche. Les Chinois sont dans une sorte de volonté de revanche aussi sur le siècle de l'humiliation au 19e siècle. L'Inde a faim de pouvoir géopolitique, est en rivalité avec la Chine. De quel côté va-t-elle aller? Donc, il y a plusieurs fronts chauds, hein, qui sont en train de se réveiller. Et je pense que si on regarde ça de façon un peu plus vaste, les choses commencent à s'éclairer. D'ailleurs, soyons honnêtes, les frappes, enfin, c'est ce que certains aux États-Unis soutiennent, les frappes américaines en Iran, est-ce que ça vise Téhéran pour la sécurité d'Israël? Ben oui, évidemment, il y a un lien, mais est-ce que ça vise pas aussi la Chine, en vérité? C'est-à-dire, est-ce que derrière les frappes de l'Iran, c'est pas plutôt le système énergétique chinois qui est visé? Après, on peut dire que c'est un
échec. Vous savez, sur ce plan-là, j'aurais même tendance à dire qu'il y a une forme de sérendipité de la part des États-Unis qui, en fait, ont suivi Israël et sont dit... Ils se sont dit au passage, ah oui, effectivement, ça peut avoir un impact positif au niveau de la Chine. Mais, c'est comme la question vénézuélienne... Faut pas oublier que sur la question du Venezuela, Donald Trump commence à consulter les experts sur le pétrole bien après avoir établi qu'il y aurait une opération Venezuela. Et dans le fond, l'idée de partager le pétrole, quelque chose qui arrive dans le fond bien après. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu au sein de la droite, je sais pas si c'est le cas aussi au sein de la droite québécoise, mais au sein de la droite anti-Trumpiste, une forme de complotisme pro-Trump, j'ai envie de dire, qui voudrait que Trump est l'homme le plus puissant de la planète, donc c'est un génie, donc il calcule tout à l'avance, donc il sait exactement ce qu'il fait, donc tout ce qu'il fait est calculé et aura des conséquences positives. J'aimerais un peu une pensée magique
comme ça. Je vous donne la parole là-dessus, puisqu'il nous reste un peu plus de 20 minutes. Exactement, puisque notre troisième et dernier sujet sont un sujet qu'on ne peut pas ne pas traiter sur ces ondes, à savoir les relations dernières entre Trump et le pape Léon XIV. Alors, on sait qu'il y avait une très mauvaise entente sur les questions migratoires, notamment entre Trump et le pape François. Là, on a vu l'élection d'un vice-président catholique À la tête des États-Unis, on s'est dit bon, il va nous l'envoyer négocier.
Et d'un pape américain.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
Et d'un pape américain. Ouais. On s'est dit ça va se réchauffer. Un des premiers discours du pape Léon XIV. Pas à contre-pied, on peut pas dire ça dans l'Église, mais de ce que disait le pape François, c'est de dire les États, à un certain moment, pour préserver le bien-être de leur population et la sécurité de tous, ont le droit de contrôler l'immigration de masse. Mmh. Donc on est quand même, on se dit, waouh, il y a quelque chose qui se passe, ça va évoluer. Et là, patatras, on a une déclaration du pape qui nous dit que la guerre n'est jamais une solution, en tout cas pas les guerres irréfléchies ou les guerres liées à l'ego. Trump déboulonne, nous met des tweets. Il a son ennemi éternel, l'Iran, qui est en pause pendant quelques jours. Donc il faut qu'il trouve quelque chose pour calmer, pour mettre son patch de nicotine, pour s'exciter sur Truth Social pendant quelques jours pour faire parler de lui. Et boum, là c'est le pape. Le pape est faible sur le crime, comme si donc il était en campagne contre Sleepy Joe Biden. Le pape est faible sur le crime. Le pape est faible sur les nations qui veulent se doter d'armes nucléaires. Donc on rappelle que cette paix est négociée au Pakistan, puissance nucléaire, par les États-Unis, puissance nucléaire, avec l'Iran qui n'est pas une puissance nucléaire. Et donc voilà. Et donc, et ensuite, il finit par cette fameuse image générée en IA de lui, donc d'après lui, en secouriste de la Croix-Rouge,
oui, oui.
Et que tout le monde a bien vu comme Jésus-Christ. Et on peut ajouter à ça, en parallèle, ses proches qui essayent de mener sur plusieurs fronts une guerre contre le catholicisme, notamment le jour de Pâques, avec l'interdiction de la messe catholique au sein du Pentagone, qui devrait exclusivement être réservée au culte protestant. Donc, Alexandre de Galzin, il me semble que vous aviez commis un article parlant du piège Trump. On a parlé de la perte de certains électorats. Là, on parle de la perte quand même de l'électorat catholique qui était à 50-50 démocrate-républicains. Mais c'est quand même, il faut le rappeler, parce qu'il faut le rappeler quand même que les catholiques sont à peu près entre 20 et 25% des États-Unis, ce qui les place en
église. Même plus maintenant, je pense.
Voilà, mais en église unifiée, parce que les protestants sont 40%, mais ils sont divisés. Mmh. En église unifiée, avec une tête qui est capable de parler à un moment donné, c'est la première église des États-Unis.
C'est la NUPES de...
Voilà, c'est ça, exactement. Et donc là, ils sont clairement en train de se mettre cet électorat à dos, plus les non-interventionnistes, on en parlait juste avant. Quel est ce piège Trump et puis si vous pouvez élaborer avec cet aspect, ce prisme catholique, ça pourrait être intéressant.
En l'occurrence, j'avoue que j'ai beau chercher des stratégies, des calculs, de la part de Donald Trump dans ce qu'il fait. Enfin, honnêtement, j'essaye de le faire et de ne pas partir sur de mauvais a priori. Et il faut avouer que quelquefois, c'est simplement d'une stupidité confondante. C'est-à-dire qu'enchaîner en trois... Je suis désolé, mais enchaîner en trois jours une offensive quand même diplomatique très importante. C'est-à-dire que c'est la première puissance mondiale qui s'oppose au pape comme ne l'a jamais fait la Chine communiste. Qui, je rappelle, en Chine communiste, il y a une église souterraine parce que on est obligé de faire valider ses sermons par le PCC. Mmh. Jamais la Chine n'a été aussi offensive envers le pape. C'est quand même, on arrive à ce point-là. D'un autre côté, Léon XIV, effectivement, vous l'avez dit, en fait, quelque part. Moi, je parle d'un point de vue purement politique en termes de politique vaticane. Là où le pape François, on pourrait le qualifier de personne de gauche au niveau de la politique pure. Hein, je ne parle pas du dogme, etc., mais de la politique pure. Le pape Léon XIV a quand même plutôt l'air d'être de l'autre bord. Effectivement, notamment sur le plan de l'immigration, même sur le plan du conservatisme par ailleurs. Donald Trump fait une offensive contre lui et trois jours après, une image qui a été modifiée par IA encore une fois. Donc c'est-à-dire qu'il faut un prompt pour modifier une image par IA. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui choisissent quelles images sont publiées. Donald Trump valide personnellement tous ses posts sur son réseau Truth Social. On le voit, lui, en Christ, en fait, en train de. En une sorte de Christ thaumaturge, en train de guérir le monde, avec des sortes de légions d'anges par derrière lui. Et voilà, donc Donald Trump, le demi-dieu Jésus qui revient sur terre, le Messie. Il n'y a pas mieux pour antagoniser les catholiques, surtout les catholiques américains.
Et les Iraniens d'ailleurs, qui ont soutenu le pape.
Voilà, mais voilà, on est dans une situation où même le régime islamiste iranien soutient plus le pape que Donald Trump, dont le vice-président est catholique. Enfin, on arrive dans une situation que je trouve mais ubuesque. Et moi, je vais vous dire, je parlais avec ces derniers jours, j'ai parlé avec des catholiques américains que j'ai rencontrés, même des catholiques d'ailleurs de toute l'Europe aussi, mais des catholiques américains qui me disaient, mais ça, c'est indéfendable. L'électorat américain est en train, catholique est en train de nous tomber dessus à vitesse grand V. D'ailleurs, Trump a été obligé de supprimer son poste, chose qu'il fait quand même assez rarement.
Oui, il me semble que la dernière fois, peut-être que, même jamais.
Mais voilà, ici, il me semble que la dernière fois, c'est quand il avait publié les images de Michelle et Barack Obama déguisés en singe en train de danser.
Enfin, voilà, c'est vraiment dans les cas extrêmes qu'il fait ça. Là, c'est comme si Donald Trump... moi, j'ai l'impression qu'il y a un côté où Donald Trump veut absolument s'aborder J.D. Vance au maximum en faisant la guerre en Iran, en mettant Marco Rubio au premier plan et en antagonisant les catholiques. Quelque part, il n'y a pas mieux pour perdre.
Mais là, peut-être qu'il y a l'hubris de la superpuissance mondiale qui se disait que tout le monde allait un peu se coucher et accepter les frappes sur l'Iran. Parce que son attitude envers le pape, c'est un peu la même attitude qu'il a envers les Européens. Mmh. C'est vous êtes ingrats, vous ne venez pas dans notre coalition et, frapper l'Iran.
Pardon, d'ailleurs, je vous coupe un instant, mais Giorgia Meloni, qui pendant un an a été... Alors, oui, je vais le dire, on va dire à cirer les bottes, pour être poli, de Donald Trump pendant plus d'un an en essayant de tout faire pour le contenter. Donald Trump, elle voit ce qui se passe au niveau du pape, évidemment, sujet énorme en Italie.
Et
on connaît l'attachement des Italiens à la papauté. Évidemment, donc Giorgia Meloni condamne. Et là, ce qui se passe, c'est que Trump dit oui, j'ai cru que Giorgia Meloni était une bonne great leader for Italy. Et puis finalement,
très belle
imitation. Merci. je peux faire la danse aussi. Mais mais était une excellente dirigeante pour l'Italie. Visiblement, je me suis trompé.
Oui, tout à fait. Il y a une sorte de rupture parce que aussi l'Italie veut pas y aller en vérité en Iran. Personne veut y aller. Il n'y a pas un Européen qui veut y aller. L'ambiance dans toutes les chancelleries en Europe, c'est problème américain.
Vous demande de vous joindre à une guerre à laquelle on vous a pas invité initialement, pour laquelle vous n'êtes pas préparé, pour laquelle vous n'avez pas eu votre mot à dire et pour laquelle vous découvrez une semaine après, parce que je me souviens de Trump qui disait oh, les Français viennent d'arriver avec leur porte-avions, trop aimable à eux.
Besoin,
en fait, on vient de l'apprendre, donc était dans les pays du Nord en train de faire des manœuvres. Désolé d'être contraint par les lois de la physique.
Nous
ne sommes pas Jésus, nous n'avons pas à Jésus à la tête de notre État. C'est simplement la Vierge qui veille sur la France.
Ouais. Il y a Macron, quoi. Mais évidemment, là, il y a un peu l'hubris américaine, je pense, de se dire ça a fonctionné jusqu'à présent. C'est-à-dire, nous sommes la superpuissance, on demande aux Européens d'augmenter leur budget militaire parce que, voilà, ils en mettent pas assez dans le temps, ils le font. Donc là, ils vont finalement suivre, l'ambiance, en vérité. Ils vont suivre un peu au pas parce qu'on a décidé de lancer une guerre contre ce régime hostile. C'est un régime qui a été d'ailleurs hostile, il faut le rappeler quand même, à la France, qui a financé des groupes terroristes, Action Directe notamment, qui a frappé notamment un général français, qui a tué un général français. Donc, l'Iran est un régime qui n'est pas très aimé, on va dire, généralement, par la puissance des...
Sur ce point-là, j'avais une question à vous poser ce soir, et du coup, je suis content qu'on y revienne, parce qu'on en était sorti, mais est revenu dans le coin de l'esprit. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui sont intervenues dans cette émission et qui ont été un peu choqués par des propos que vous avez pu avoir sur l'Iran, que je rappellerai pas forcément ce soir à l'antenne, mais...
Ouais. C'est dommage parce que moi je sais pas de quoi il s'agit.
Bon,
donc,
d'accord, une cuve à chiasse islamique d'Asie centrale. Vous parlez le contexte dans lequel ça est prononcé, vous parlez d'un certain régime à un moment donné avec une orientation donnée, pas d'un pays qui a 4000 ans d'histoire et qui est un carrefour central de la culture moyen-orientale et
plus. Non, mais évidemment, mais c'est parce qu'il y a.
Excusez-vous, Alexandre.
Oui,
c'est
ça.
Excusez-moi, c'est une question. L'assumer à l'antenne, il n'y a aucun problème.
Il y a dans une partie de la droite, on va dire radicale et américaine et européenne, une espèce de pro-iranisme qui me semble quand même déplacé. Mmh. C'est-à-dire, il y a une nuance en dire les Américains auraient pas dû faire cette attaque et oh mon Dieu, quel régime magnifique en Iran, quel grand modèle. Et parfois, on a l'impression qu'on bascule rapidement dans une espèce de manque de nuance généralisée dans l'autre. Alors, vous allez me dire que moi non plus, j'ai pas fait preuve de grande nuance. En effet, c'était pour répliquer au manque de nuance d'en face. Donc, c'est aussi dans cette optique-là. On a l'impression, pour certains, que voilà, l'Iran, c'est le phare du monde, c'est merveilleux, c'est ce qu'on voudrait imposer un peu partout, voire même qu'on souhaite...
Ce le fut extrêmement longtemps et sur un certain monde.
Que le phare du monde, on n'est pas là non plus. C'est-à-dire que moi, j'ai un grand respect pour la civilisation iranienne. Oui, d'un côté, bon, ça fait quand même 1500 ans qu'ils sont musulmans, déjà, au premier point. Et ensuite, encore une fois, bon, c'est vrai que... En fait, moi, je vois ce que vous voulez dire. Alors, j'aurais certainement pas dit comme ça. Non, mais je vois ce que vous voulez dire dans le sens où, effectivement, il y a une forme de droite tiers-mondiste qui, du moment que c'est anti-américain, va applaudir.
Oui, peu importe.
Et du moment que c'est anti-occidental, va applaudir. Donc ça veut dire qu'ils vont applaudir la Russie, quoi qu'il arrive, vont applaudir l'Iran, quoi qu'il arrive, vont applaudir la Chine, quoi qu'il arrive. Et dans le fond, effectivement, il faut rappeler que c'est un régime qui a quand même commis un des plus grands massacres, voire le plus grand massacre du 21e siècle par un régime en place, en tuant quand même 20 à 30 000 personnes en quelques semaines.
Oui, mais tout ça, c'est la propagande sioniste, là. Vous répétez la... c'est ça le débat, en vérité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, les Iraniens sont très gentils. Ils sont merveilleux, ils sont enracinés, ils sont chez eux. Et oh mon Dieu, les Américains. Bah oui, mais d'accord, mais quand même, il y a des soldats français qui ont quand même été tués par des milices proxy financées par l'Iran. À un moment donné, les Français.
Bien sûr, donc vous répondez très clairement à ma question. Vous parlez d'un régime donné à un instant T.
Non, mais c'est évident. Bien sûr. C'est évident. Mais et en plus, je veux dire, franchement, c'est très bien l'Iran, pas de problème. Mais qui est tant que ça inspiré par la grande culture perse? J'ai l'impression que c'est aussi une construction intellectuelle. Anti-américaine pour se dire bon ben voilà, on a un grand peuple cultivé, on a des rednecks américains, nous choisissons la grande nation cultivée. Mais la vérité, c'est que la France est dans l'OTAN, alors on peut peut-être le regretter.
Là, vous mélangez culture et géopolitique là en l'occurrence, mais moi par exemple, je vais vous dire à titre tout à fait personnel, moi par exemple, c'est un pays que dans l'absolu, si c'était pas la situation actuelle, que j'aimerais beaucoup visiter, notamment, etc. Et même de manière générale, c'est bête, mais ça m'est arrivé par des connaissances que j'avais, des connaissances iraniennes qui était en France, etc., d'ailleurs très pro-occidentale, qui justement m'ont fait écouter des musiques iraniennes, m'ont lu la langue iranienne, etc. Donc en fait, je veux dire, évidemment, l'admiration béate devant l'Iran, c'est exagéré. Faut pas oublier que la France, ça reste quand même supérieur. Faut pas oublier que l'Europe, ça reste quand même supérieur.
La France des deux rives de l'Atlantique est quand même supérieure.
Non mais quand même. Et aussi, je voulais aussi quand même revenir là-dessus, c'est-à-dire que j'ai l'impression que parfois l'anti-américanisme rend fou en vérité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je veux dire, on va pas se mettre à vouloir la charia parce que les Américains font une intervention de trop au Proche-Orient. Les Américains gèrent l'Empire mondial, et forcément, parfois, ils le gèrent mal. Et la France, quand elle était une grande puissance, des fois, elle s'alliait aux Ottomans contre les Habsbourg. Ouais. C'est-à-dire que quand on est en position de puissance, ça donne une responsabilité. Des fois, on déborde de ses responsabilités et on fait un peu n'importe quoi. C'est peut-être ce qui est en train de se produire en Iran. Mais je rappelle aux Européens qu'ils ont déjà dirigé le monde et ils ont fait des conneries. Et pas qu'un peu. Et c'est pas pour ça qu'on va se mettre à prendre pour les Ottomans.
Oui, on va pas prendre le parti du Cameroun parce que la France a commis des crimes dans la colonisation.
Exactement. Donc, à un moment donné, il faut raison garder. C'est-à-dire, et je trouve que dans cette espèce de survalorisation, alors, dans un camp très spécifique de la droite, comme vous l'avez appelé, tiers-mondiste, ça prend des proportions un peu ridicules. Donc, oui, je réagissais à ça. Mais ensuite...
Mais la réponse est très claire.
Oui, et je veux dire, moi, je suis un réaliste. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut aussi dire quelque chose sur l'Iran et sur la révolution iranienne. Le Shah, qui était soutenu par les États-Unis, a sauté. Il a sauté pourquoi? Parce qu'on avait une jeunesse iranienne marxisante et on avait une jeunesse iranienne islamique. Non mais...
Oui, mais attendez, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que c'est quand même un régime, enfin, c'était quand même une dictature extrêmement brutale qui massacrait son peuple comme le fait actuellement. C'est pour ça que quand on nous vend du matin au soir Reza Pahlavi, que le fils du Shah d'Iran, comme étant le messie islamique, on va dire, qui reviendrait, alors qu'il est probablement payé par la CIA par ailleurs, mais bon, ça c'est encore un autre sujet, mais dans le fond, en tout cas, qui descendrait du ciel pour revenir en Iran, sauver son peuple. Pardon, mais la mémoire des Pahlavi en Iran, enfin, personne n'en veut, quoi. C'est-à-dire que personne ne veut revenir à une forme de dictature militaire. Je rappelle que d'ailleurs, la dynastie Pahlavi, c'est pas la dynastie qui est là depuis 5000 ans en Iran.
Non,
c'est une dynastie qui arrive au début du 20e.
Oui, tout à fait. C'est un général, puis il y a l'histoire de Mossadegh ou les CIA fait renverse. Mais ce que je veux dire, c'est que cette révolution iranienne vient aussi du peuple iranien. Parce qu'on nous vante aussi une civilisation perse où l'islam n'aurait rien à voir là-dedans. Je suis désolé. Il n'y a pas une révolution islamique pour rien. Il n'y a pas de révolution islamique au Québec, même si la CIA le voudrait, ou Moscou. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est venu de la société iranienne. On a des intellectuels iraniens qui ont traduit les textes décoloniaux en farsi et ils l'ont fait en des termes islamiques est compatible finalement avec une lecture chiite de l'histoire pour mousser des mouvements sociaux révolutionnaires dans cette espèce de symbiose entre le socialisme et l'islam qui a donné la République islamique d'Iran, qui est un mélange de communisme et d'islamisme totalement particulier parce que dans sa forme cléricale chiite. Et, ce régime-là, il est endogène, il vient de la société iranienne. Mmh. Ça, c'est la réalité. Donc, à la fois les espèces de... Voilà, sur les plateaux de télé, on nous dit « Ah, les Iraniens, ils sont complètement post-musulmans. » Je dis « Attention, et la grande civilisation perse qui n'aurait rien à voir avec l'islam,
c'est,
je dis « Attention c'est, un peu. »
Vous connaissez un petit peu sur Internet les images l'Iran avant la révolution islamique.
Oui, ben oui.
En fait, on voit... Mais pardon, mais en fait, d'ailleurs, c'est toujours les mêmes. Des filles en mini-jupe, etc. à Téhéran. C'est-à-dire, pardon, mais dans tous les pays du monde, même les plus conservateurs, en soi, oui, les femmes sont évidemment plus libres et plus peuvent s'habiller comme elles veulent, etc. Mais ça existait à Téhéran, ça existait peut-être dans 2-3 villes à Ispahan.
Oui.
Je sais pas quoi.
Et pendant quoi, 30 ans.
Mais voilà, exactement, et pendant peut-être 5 ans ou 10 ans. Et en fait, dès que ça s'était. Enfin, en fait, évidemment, 95% de la population était effectivement posée à ça. Après, faut pas oublier aussi qu'aujourd'hui, il y a aussi des aspirations populaires iraniennes qui sont contre le régime actuel, qui sont d'ailleurs beaucoup plus. Ouais, beaucoup moins islamistes. Que les aspirations.
Ouais, ce que je vous propose, il nous reste 2 minutes d'émission. Okay. Et en effet, on pourrait faire
c'est
une émission entière sur ce sujet-là.
Je vous propose
chacun en 30 secondes sur tous les sujets abordés ce soir de donner pour vous la plus grande orientation stratégique de notre monde sur les 50 prochaines années. Et puis, je garderai 10 secondes pour le mot de la fin.
Oui, ben écoutez, l'aventure américaine en Iran, point d'interrogation. Comment tout ça va se finir? Moi, j'ai pas l'impression qu'on s'en va vers un scénario irakien, mais en même temps, Trump est capable de nous surprendre de toute façon. Donc, on va voir comment il va réussir à s'en sortir. Là, il paraît qu'il y a le blocus, il veut mettre en place le blocus. On va voir ce que ça donne. Est-ce que c'est militairement faisable? Est-ce que véritablement... ça va suffire ou est-ce qu'il va pas falloir quand même occuper la côte, donc faire un débarquement peut-être de GIs américains partiel. Tout ça est fort possible, hein. Tout ça est dans les cartons. Encore une fois, comme je dis, pour avoir une lecture, selon moi, pour avoir une lecture lucide de ce qui est en train de se passer, il faut sortir de l'Iran, il faut sortir du conflit russo-ukrainien, il faut regarder ce qui se passe en Chine, il faut regarder le système dollar, et la vérité, c'est que la géopolitique a rattrapé Donald Trump. Parce que vous avez beau dire je suis le président de l'Empire et je ne veux plus l'Empire. En vérité, le système dollar avantage les Américains. Et ils vont se battre pour le conserver.
En quelques mots, je vais vous rejoindre un petit peu là-dessus, dans le sens où je pense que Donald Trump a voulu faire une preuve de la puissance américaine et d'une preuve qu'en fait le monde unipolaire pouvait demeurer et que les États-Unis avaient gardé la main là-dessus. Et tout ce qu'il fait, c'est effectivement diviser l'Occident et justement briser cette sorte de vassalité qui existait autrefois de l'Europe envers les États-Unis, et que finalement lui-même est en train de créer le monde multipolaire qui avantagera plutôt la Chine, qui avantagera plutôt la Russie, qui avantagera plutôt même, voyons voir, peut-être l'Iran, et que finalement, en fait, en voulant trop employer la force, finalement, il se retrouve à affaiblir largement le camp occidental.
Eh bien, merci à nos deux invités pour cette émission de ce soir. Je vous rappelle que vous étiez sur le Libre Journal de l'Occident et que vous pouvez nous retrouver sur les ondes de Radio Courtoisie en rediffusion. Je vous remercie de votre fidélité et à très bientôt.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de l'Occident, dirigé par François-Xavier Jiquel, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mardi 14 avril 2026, de 21h30 à 23h, et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros, ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.